On écoute facile.
On écoute facile.
Una facile ascolta.
On écoute facile.
Ça ascolte, c'est au show.
Französisch leicht gemacht.
Calimera. Matheno ke milao gallica.
Yes, I would like to speak easily in French.
Apprenez le français.
Hadit se volbim limba francese.
Let's learn French together.
Parles-tu français?
Parles-tu français? Parle francese.
Je veux parler facilement le français.
Quelle chance de parler facilement le français.
Französisch auf leichte Weise. On écoute facile.
Sur Canal Academy, un espace dédié à l'apprentissage du français, on retrouve Hélène Renard et Virginia Crespo.
Bonjour. En écoute facile, vous propose de suivre Édouard Bonnefous, qui fut plusieurs fois ministre sous la 4e République française, c'est-à-dire dans les années 1952 à 1958. Édouard Bonnefous fut aussi chancelier de l'Institut de France et membre de l'Académie des sciences morales et politiques. On peut le considérer comme un pionnier de l'écologie, car il fut profondément animé par le souci de l'environnement et de la défense de la nature et de l'homme.
Et s'il fut tout à la fois journaliste, géographe, écrivain, homme politique et homme d'État, il fut surtout un grand voyageur. Dans son livre « Regard sur le monde », un véritable carnet de voyage, il nous entraîne sur tous les continents, sauf la Chine.
Suivons donc Édouard Bonnefous. Dans l'un de ses nombreux voyages, allons avec lui, dans les années 1935, découvrir au Brésil, dans la baie de Rio, le célèbre Christ du Corcovado, qui domine la ville à quelques 700 mètres.
La montée au Corcovado que je fais ce matin est assez monotone. La voie a été tracée en pleine forêt, mais à cet endroit, la végétation n'est pas touffue. Au bout de 50 minutes, le chemin de fer à crémaillère vous a déposé au sommet. Encore quelques marches, et l'on arrive sur la plateforme où se dresse le Christ colossal, sculpté par Landowski. Avec ses bras en croix et la position qu'il occupe par rapport à la ville, il semble protéger Rio. Et c'est sous son signe que la ville paraît s'être placée et les maisons s'être réunies à ses pieds.
Le sculpteur Paul Landowski, auquel fait référence Édouard Bonnefous, est né à Paris le 4 juin 1875 et mort à Boulogne-Billancourt le 27 mars 1961. Ce sculpteur figuratif français d'origine polonaise était le père du compositeur Marcel Landowski, 1915-1999, qui réforma l'enseignement musical en France. Tous deux, le père et le fils, étaient membres de l'Académie des Beaux-Arts. Mais continuons la montée dans une nacelle, c'est-à-dire une petite embarcation. Il faut vaincre sa peur, mais à l'arrivée, quelle récompense !
À 5 heures, je confie mon sort à la petite nacelle suspendue qui vous enlève à l'aide d'un câble aérien vers la première plateforme. Ballotté par le vent, une roue court au-dessus de la tête, le long du câble, le vide sous nos pieds, l'impression est assez désagréable. Surtout après la première plateforme, quand il faut recommencer la même opération pour monter, pendant une quinzaine de minutes, au sommet du pain de sucre. C'est dans l'embrasement du soleil couchant que nous sommes arrivés. Le soleil était au-dessus du Christ du Corcovado et jetait sur la baie ses mille feux. Il est impossible de décrire la beauté des montagnes qui se succèdent à droite de la baie en venant de la mer à 200 ou 300 mètres au-dessus de l'eau. Chacune est différente et fait cependant un ensemble merveilleusement cohérent. On dirait des nymphes qui sortent de l'eau. Le soleil, qui fait rougeoyer leur sommet, a jeté sur leurs flancs toute une gamme de violets, depuis le plus vif jusqu'au plus pâle. L'eau est par endroits comme ensanglantée. Sur la gauche, au contraire, les montagnes sont beaucoup plus élevées. Mais leur beauté tient justement à leur majesté, faisant un contraste, des petites îles dansent dans la mer, à leurs pieds.
Vous avez entendu le mot « nymphe ». Une nymphe est une divinité des bois et des eaux de la mythologie gréco-romaine.
Toujours en compagnie d'Édouard Bonnefous de l'Académie des sciences morales et politiques, nous quittons Rio et, Par le chemin de fer, nous entamons avec notre voyageur un long, très long trajet qui traverse les montagnes pour arriver à Ouro Preto. Rappelons-nous que nous sommes dans les années 1935.
Les chemins de fer au Brésil mériteraient à eux seuls une étude. Il est impossible d'imaginer l'état des voies. À chaque tournant, et ils sont incessants, on a l'impression de sortir des rails. La nuit est atroce, dans un simili-sleeping qui s'appelle dormitorio. La seule chose qu'il soit impossible de trouver dans de tels wagons, c'est assurément le sommeil. Par ailleurs, il fait très froid. D'autant plus que, comme dans tous les pays chauds, rien n'est prévu contre le froid.
Après de nombreuses étapes dans de petites gares en terre battue, assez sales, où les poulets picorent entre les rails, le train entame la montée vers Ouro Preto.
Immédiatement, la voie s'élève et tourne en lacet constant. Sous un soleil lumineux, on découvre bientôt le petit bourg au fond d'un creux. Puis, continuant à escalader les montagnes, passant de sommet en sommet, hurlant, crachant, soufflant, notre convoi avance maintenant dans un paysage grandiose et sinistre. Le vent souffle par endroits avec rage, mais au tournant suivant, le soleil vous éblouit de sa clarté. Plus de végétation, plus de vie humaine, la terre est uniformément vert noir. Sauf de loin en loin, où d'adorables petits arbres jaunes, qui s'abritent du vent au revers des montagnes, mettent une note lumineuse et gaie dans cet ensemble foncé et sévère. Parfois aussi, quelques eucalyptus. Les montagnes se succèdent, s'entrecroisent. Ce sont des montagnes qui, comme toutes celles du Brésil en général, s'élèvent entre 1000 mètres et 1500 mètres. Sierras, comme on les nomme communément. Après plusieurs arrêts dans des villages étonnants de pittoresques, le train descend rapidement dans des gorges profondes ou glisse le long des cascades ou des torrents, entourés et dissimulés sous un amoncellement d'arbustes, de lianes, de fougères géantes. Dans un cours d'eau moins caché, on voit des hommes qui, à moitié entrés dans l'eau, cherchent l'or que la rivière peut charrier.
Marquons une petite pause, mais sachez que notre visite d'Ouro Preto au Brésil n'est pas terminée.
Retrouvons notre voyageur et les chercheurs d'or des montagnes brésiliennes, mais un peu d'histoire tout d'abord.
Ouro Preto est le vieux centre de l'or. Ville abandonnée depuis le début du XXe siècle, elle ne compte plus guère que 20 000 habitants. Au lieu de 100 000, ou même 150 000, au temps de sa prospérité. Le Brésil fut traversé de part en part, dès le XVIIIe siècle, par les Portugais qui cherchaient partout l'or. Quand on découvrit de l'or dans la région d'Ouro Preto, ce fut une véritable ruée, comme en Californie 50 ans plus tard. Et en Afrique du Sud, à la fin du XIXe siècle, l'homme est esclave du métal jaune, et aujourd'hui du pétrole. Les guerres et les révolutions n'ont souvent pas d'autre cause. Bâti sur trois collines, Ouro Preto est dans un fond de vallée. Les vieilles églises, dont la plupart sont aujourd'hui fermées, sont généralement décorées luxueusement. C'est le style rococo dans tout son éclat. De l'or, des boiseries recouvertes d'or, des sculptures en bois doré.
Savez-vous qu'il existe une roche qui tremble ? Édouard Bonnefous en fait la description.
En après-midi, visite de l'intéressante École des Mines, la seule de l'Amérique du Sud. Fondée par un Français, on y étudie pendant 5 ans la minéralogie. Le Brésil est, peut-être, le pays qui renferme la plus grande variété minière qui se puisse imaginer. Richesse minérale, encore inexploitée, inutilisée. Le directeur qui nous l'a fait visiter nous promène à travers les vitrines qui contiennent tous les échantillons de cette flore minérale, qui va des roches les plus vulgaires aux pierres les plus rares. Nous restons devant un morceau de roche d'un type exceptionnel, la roche qui tremble. Quand on la touche, elle se courbe, s'incurve et se plie à son extrémité sans se briser. Sur le sommet qui domine Ouro Preto, les roches sont de cette composition. Puis, dans le soir qui vient, nous redescendons à travers les rues tortueuses et raides d'Ouro Preto vers l'hôtel, puis vers la gare. Les pauvres qui se traînent le long des trottoirs, décharnés et ravagés, des plaques sur la figure, portent sur eux les stigmates de la lèpre. Très nombreux, les lépreux se promènent librement et sont des agents de transmission, par le sol sur lequel ils marchent déchaussés. Le soleil baigne Ouro Preto dans son rougeoiement. Nous reprenons les routes vers Belo Horizonte.
Laissons repartir Édouard Bonnefous vers d'autres destinations et rappelons que son livre « Regards sur le monde » est paru aux éditions Le Moniteur. Avant de nous séparer, je voudrais vous rappeler que dans cette même série consacrée aux lieux décrits par les académiciens, vous pouvez écouter également « L'Algérie » par Assia Djebar de l'Académie française, « L'Albanie » par Ismail Kadaré de l'Académie des sciences morales et politiques, l'abbaye de Sénanque par Georges Duby de l'Académie française et la Chine par Pierre-Jean Rémy de l'Académie française.
Au revoir à tous, à bientôt pour un prochain En écoute facile.